Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Et on commence avec les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Le Victoria qui annonce 240 nouveaux cas de Covid-19 dans les dernières 24 heures, 2 dans le Queensland et 5 en Nouvelle-Galles du Sud. L'Australie rendra-t-elle le vaccin anti-Covid obligatoire pour rentrer sur le territoire? Une fois d'ailleurs que ce dernier sera mis en place, la question se pose pour le gouvernement. Et au Mali, la junte militaire qui organise le coup d'État a pris la parole pour la première fois et demande au peuple de vivre normalement. Débute donc ce journal comme à l'accoutumée avec le coronavirus à travers le pays. Le Victoria, je vous le disais en titre, a enregistré 240 nouveaux cas de Covid-19 et 13 décès. Cela survient un jour après que l'État ait signalé 216 cas. C'était hier. C'était la plus faible augmentation quotidienne des 5 dernières semaines. Les nouveaux décès portent le nombre de morts dans l'État à 376. Toujours dans le Victoria, d'ailleurs, une enquête a révélé que les équipements de protection individuelle, les fameux PPE, avaient été utilisés de manière incorrecte dans au moins l'un des hôtels où les voyageurs étrangers étaient en retour et étaient mis en quarantaine. Avec les audiences publiques d'aujourd'hui et de demain, nous examinerons le système de l'intérieur, le système de quarantaine mis en place dans l'État. Il a été révélé plus tôt cette semaine que 99% des cas actuels de Covid-19 dans le Victoria sont attribuables à des épidémies au sein de l'hôtel Ridges en Swanston et Stanford Plaza, donc à Melbourne. Une infirmière a déclaré même au niveau de l'enquête qu'il n'y avait pas assez suffisamment de PPE et qu'ils étaient effectués quand elle effectuait la majorité de ses shifts et tout le monde ne les utilisait pas correctement ou alors se débarrassait pas de manière appropriée. On l'écoute.
It was very obvious to me that training in PPE hadn't been widely available to everyone involved in the program. I saw a lot of mostly security guards, for example, constantly wearing the same gloves throughout their shifts, going and making themselves a coffee with gloves on, using their phone, things like that, always wearing the same gloves, wearing their mask so that their nose was hanging out or that it was underneath their chin.
Voilà, donc l'enquête qui continue dans le Victoria. Dans le Queensland, une femme de 70 ans qui travaille dans un centre de détention pour les jeunes à l'ouest de Brisbane a été testée positive au Covid-19. C'est le deuxième cas mystérieux lié à la capitale du Queensland au cours des dernières 24 heures après qu'une femme qui soit restée à Brisbane ait été testée positive au Covid-19 à son retour du Japon. L'agent de santé en chef, la docteure Jeanette Young, donc la santé pour l'État, dit que l'employé du centre de détention pour les jeunes a travaillé plusieurs shifts alors qu'elle était contagieuse. Elle dit que si cette femme a développé des symptômes pour la première fois le 10 août, son résultat n'est arrivé que la nuit dernière, donc mercredi. On écoute la docteure Jeanette Young.
At this stage, we're working with the centre to test all of their residents. They have approximately 130 youth in detention there and all of the staff. There's over 500 staff. Plus, we'll be going through whether there have been any visitors during that time period and whether, of course, there have been any residents who've moved in and out of the facility during that time.
Donc Jeanette Young du la santé dans le Queensland. De son côté, l'ICT a prolongé son état d'urgence de santé publique jusqu'au 19 novembre en réponse aux risques posés par les flambées récurrentes entre le Victoria et la Nouvelle-Galles du Sud. Cela fait plus de 5 semaines que le dernier cas du Covid-19 a été enregistré pourtant dans le territoire. La ministre de la Santé Rachel Stephen-Smith a déclaré que la propagation et la déclaration d'urgence de 90 jours supplémentaires étaient nécessaires pour protéger les habitants de Canberra et réduire la propagation du virus dans la CT. La Nouvelle-Galles du Sud, de son côté, a enregistré 5 nouvelles infections du Covid-19, je vous le disais en titre. Deux des nouveaux cas sont des voyageurs provenant de l'étranger en quarantaine, en hôtel, tandis que les 3 autres se trouvent dans le sud-ouest de Sydney. Le médecin en chef, le docteur Kerry Chent, a déclaré que les 2 cas qui ont été contractés localement faisaient toujours l'objet d'une enquête. On l'écoute.
We are seeing these continual low levels of transmission in particularly in southwestern Sydney, but also popping up in western Sydney from time to time. It's critical that we continue to see those high testing rates. It's important that the community continues to embrace those COVID-safe behaviours, such as social distancing and wearing a mask when you can't socially distance.
C'était la docteure Kerry Chent, donc pour la Nouvelle-Galles du Sud. Qantas, de son côté, a enregistré une perte de près de 2 milliards de dollars avec la pandémie du Covid-19, une baisse de 21% des revenus annuels. La compagnie aérienne a déclaré un bénéfice net avant impôt de 124 millions de dollars pour l'exercice de 2019-2020, soit une baisse de 90% par rapport aux 1,33 milliards de dollars de l'année dernière. La crise a contraint la compagnie aérienne à mettre au sol la plupart de ses avions, à interrompre les vols internationaux et à licencier des milliers de membres de son personnel. Le directeur général de Qantas, Alan Joyce, a déclaré que la seconde moitié de l'année était, dans l'ensemble, les conditions les plus difficiles auxquelles le transporteur national ait été confronté au cours des 100 dernières années.
COVID-19 has punched a $4 billion hole in our revenue and a $1.2 billion hole in our underlying profit in what would have been otherwise a very, very strong year.
13h07, le ministre fédéral de la Santé, Greg Hunt, a déclaré qu'il n'exclurait pas d'obliger à vacciner les futurs voyageurs internationaux contre le Covid-19, et ce, avant leur arrivée en Australie. Le gouvernement a signé un accord, je vous le rappelle, avec la société pharmaceutique britannique AstraZeneca pour sécuriser le vaccin potentiel au Covid-19, vaccin de l'université d'Oxford, s'il s'avère efficace et sûr pendant les essais. Le gouvernement dit que si le vaccin s'avère donc efficace, il sera fourni gratuitement aux Australiens, dans le but de faire vacciner au moins 95% de la population. Le ministre de la Santé, Greg Hunt, a déclaré à Nine Network que si le gouvernement ne rendra pas le vaccin obligatoire en Australie, il pourrait empêcher les gens d'entrer dans le pays s'ils ne l'ont pas reçu. On l'écoute.
If the medical expert advice is that that's required, and I could certainly imagine and see that case, to be honest and frank, it would seem passing strange if we had a massive vaccination program in Australia, but we were then to allow people in who might bring it. We know from the hotel quarantine, we have saved hundreds and hundreds of cases from going out into the Australian community by having that program.
Ah, donc le ministre fédéral de la Santé, Greg Hunt, le médecin en chef adjoint donc pour l'Australie, a déclaré que les dirigeants des États et des territoires devraient par contre considérer la doctrine médicale du entre guillemets ne pas nuire lorsqu'ils envisagent des contrôles stricts sur les mouvements transfrontaliers. Les commentaires du docteur Nick Cotsworth sont intervenus alors qu'une enquête parlementaire recueillant aujourd'hui des preuves par les groupes de tourisme, de transport ou les entreprises touchées par les restrictions relatives au coronavirus. Le cabinet national doit également discuter des contrôles aux frontières vendredi, donc demain. Le docteur Cotsworth a déclaré que l'organe consultatif national de la protection de la santé a encouragé les dirigeants des États et des territoires à être aussi transparents que possible dans leur prise de décision. On l'écoute.
It's particularly important that those decisions are justified not just to the people of that state. I think that we've seen very clearly in the past few weeks the significant effect that border closures have on people living on the wrong side of the border. It's a general principle of medicine that when you're doing anything to treat a problem, first do no harm. And that has to be a consideration as well.
Allez, 13h09, on tourne la page du coronavirus dans ce journal et on part dans l'actualité mondiale et dans le reste de l'actualité au Mali. La situation politique qui est toujours indécise après la tentative de coup d'État au début de semaine. Le président Keïta est toujours retenu prisonnier. Les putschistes ont pris la parole pour la première fois dans une conférence de presse par la voix de son porte-parole Ismaël Wade. J'en écoute tout ça.
Les populations à vaquer librement à leur occupation et leur demande de reprendre sainement leur activité. Le comité invite les fonctionnaires à reprendre le travail dès demain, jeudi 20 août 2020, et rassure les populations que toutes les dispositions sont prises pour la protection des personnels et des biens, ainsi que des lieux de travail. Le comité invite d'arrêter immédiatement les actes de vandalisme et de destruction des édifices publics. Au demeurant, tout contrevenant fera l'objet de sanctions. Le comité insiste que lors de ces activités, on a déploré zéro mort, contrairement à certaines allégations qui parlent de 4 morts et 10 blessés.
Voilà, donc le général Ismaël Wedge, le porte-parole de la junte militaire qui a fait tentative ou le coup d'État au Mali, l'avenir nous le dira. Les 27 pays européens étaient réunis hier à un sommet extraordinaire pour parler de la situation en Biélorussie. Le pays est toujours le théâtre de grèves et de manifestations contre la réélection du président sortant, Alexander Loukachenko. Et l'Europe devrait appeler à une nouvelle série de sanctions dans le pays et de nouvelles sanctions contre les dirigeants au pouvoir également. Les explications avec Juliette Garbrand.
Une violence choquante et inacceptable. À l'issue du Conseil, Charles Michel dénonce la répression des manifestations en Biélorussie. Au même moment, le président biélorusse ordonne au gouvernement de mettre fin aux manifestations. Réuni en urgence, le Conseil des 27 a annoncé des sanctions ciblées à l'encontre de tous les responsables de faits de violence, de répression ou de fraude électorale. Une liste des personnalités concernées va être établie rapidement, a précisé la présidente de la Commission. Ursula von der Leyen a réitéré le soutien de l'Union européenne à la population biélorusse en lutte avec du concret. L'aide financière que Bruxelles fournit déjà au pays va être réorientée pour ne plus aller au gouvernement mais directement à la société civile, y compris pour venir en aide aux victimes de la répression et aux médias indépendants. L'Union européenne est aussi prête à soutenir un processus de transition vers la démocratie. Elle espère que l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, dont la Biélorussie fait partie, pourra établir un dialogue entre le gouvernement et l'opposition. Toutes les parties, y compris les États extérieurs, a précisé le président Charles Michel, doivent soutenir un processus pacifique.
Et c'était Juliette Garbrand pour RFI. Direction le Royaume-Uni maintenant. Brexit ou pas, le mois de juillet a été le meilleur depuis 10 ans pour le secteur immobilier. Mais les Britanniques ne doivent pas se réjouir trop vite. Il y a une explication structurelle à tout ça, comme nous l'explique Ariane Gaffury.
Avec la montée en puissance du télétravail, de nombreux Britanniques privilégient désormais l'espace et la qualité de vie à la campagne ou au bord de la mer dans le sud-est de l'Angleterre, selon Rightmove. Mais ce boom immobilier en plein été, période de ralentissement pour ce marché, s'explique surtout parce qu'un grand nombre de projets de vente et d'achat se sont enfin concrétisés. C'est l'avis de Russell Quirk, expert en immobilier au Royaume-Uni.
L'idée répandue dans les médias selon laquelle les Britanniques quitteraient Londres pour s'installer en province n'est pas prouvé pour le moment, à mon avis. Je pense surtout que beaucoup de gens qui étaient sur le point d'acheter ou de vendre en région ont dû attendre à cause du Covid et de cette chose horrible qu'on appelle le Brexit qui a créé un climat d'incertitude. Ces personnes ont finalement mis leur projet à exécution. Il faut savoir qu'au Royaume-Uni, les transactions sur les propriétés sont taxées et cette taxe a explosé en 20 ans. Alors, quand le ministre de l'économie, Rishi Sunak, a décidé de la suspendre jusqu'au mois de mars de l'année prochaine, les gens qui hésitaient se sont décidés à acheter car ils peuvent économiser environ 16 500 euros et pour eux ça vaut le coup.
Mais, se demande Russell Quirk, qu'est-ce qu'il se passera le 31 mars 2021 quand cette taxe immobilière qui rapporte 10 milliards d'euros par an à l'État britannique sera réintroduite ?
Et c'était Ariane Gaffury pour RFI. Coup d'œil météo à travers le pays pour aujourd'hui. À Perth, il fera 19 degrés. Adélaïde, 15. Melbourne, 15. Hobart, 13. Canberra, 9 degrés. Sydney, 19. Brisbane, 24. Cairns, 31. Et un petit peu de brouillard et du soleil pour Darwin, mais toujours 32 degrés. Un rappel des grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Le Victoria qui annonce 240 nouveaux cas de Covid-19 dans les dernières 24 heures. 2 pour le Queensland et 5 pour la Nouvelle-Galles du Sud. L'Australie rentrera-t-elle rendra obligatoire le vaccin du Covid-19 une fois ce dernier mis en place. La question se pose pour le gouvernement et on l'a entendu dans ce journal. Au Mali, la junte militaire qui a organisé le coup d'État a pris la parole pour la première fois. Voilà, il est 13h14, courte pause et on retrouve le sport dans quelques instants.
Français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.